Les Colibris d'Alès présentent le chant des colibris.
En la forêt des colibris, il y avait un grand incendie, du feu, des flammes, du vent, des cris. Tous les amis des colibris regardaient le feu sans rien dire, n'avaient qu'une idée, s'enfuir. Il restait juste un colibri, jetant des gouttes sur l'incendie. Nous sommes tous des graines de colibri. Dans ma tête il y a du cœur, dans nos cœurs il y a l'envie de quoi faire un monde meilleur, de quoi faire un paradis.
Le chant des colibris. Une émission de Céline Elodie, enregistrée en public au Jeudi des Colibris à Alès. Les Jeudis des Colibris, ce sont des soirées, donc chaque troisième jeudi du mois, des soirées thématiques autour de l'environnement, du vivre ensemble, de la révolution intérieure, de l'éducation, de l'économie solidaire et tous ces beaux sujets. Et on attaque donc cette nouvelle saison avec le thème de l'autonomie alimentaire en ville. Voilà, c'est une thématique apparemment qui vous a fait venir nombreux. Pour parler de cela, on accueille donc François Rouillet et Sabine Becker. Merci d'être venus, merci beaucoup, parce qu'on sait que vous êtes bien occupés en ce moment. Je vous présente donc nos invités. Alors Sabine Becker, dans votre vie d'avant, Sabine, vous avez été ingénieure urbaniste. Et aujourd'hui, vous êtes thérapeute énergéticienne. Vous apportez le versant thérapie dans la démarche de permathérapie que vous avez créée avec François, que nous allons découvrir donc ce soir. Hein, de quoi s'agit-il, la permathérapie, un mix entre la permaculture et la thérapie. Et François, alors François, dans votre vie d'avant, vous avez été conseiller de développement territorial des politiques publiques. Ouh, déjà rien que ça, j'en perds mon souffle. Et puis, au fil de votre révolution intérieure, vous avez structuré et coordonné le mouvement des incroyables comestibles qui sont à l'honneur ce soir. On a mis des petits bacs pour vous donner un peu une idée de ce que c'est que les incroyables comestibles avec les petits panneaux, nourriture à partager. Et François a été le coordinateur en France de tout le réseau incroyables comestibles. C'est environ 800 villes, hein, je crois, aujourd'hui. Donc, c'est quand même assez énorme comme réseau. Et aujourd'hui, vous avez passé le relais, François, pour vous consacrer à accompagner des villes entières vers l'autonomie alimentaire avec un programme d'atteindre l'autonomie alimentaire en 4 ans. Donc, c'est assez ambitieux. Et vous avez bien voulu venir nous parler de tout ça aujourd'hui. Alors, pour commencer, on fait un bref rappel de ce qu'est le mouvement des incroyables comestibles. Alors, pour ceux qui savent pas, ça a commencé en 2008, dans la ville de Todmorden, au nord de l'Angleterre. À l'origine, ce sont 3 mères de famille qui décident de planter des légumes le long d'un canal et qui font passer une annonce dans le journal pour essayer de faire venir du monde dans leur projet, pour redonner de l'autonomie aux citoyens face à la crise économique, retrouver notre pouvoir à chacun. Et très vite, le mouvement grandit. Ça fédère rapidement une 60aine de personnes et plus encore. Le but, voilà, c'est de retrouver son autonomie face à la crise économique et de valoriser tous les espaces cultivables pour le bien commun dans un esprit de partage, puisque l'idée, c'est nourriture à partager où on se sert gratuitement. Donc, les incroyables comestibles, c'est une démarche d'agriculture urbaine open source qui est présente, donc, comme je l'ai dit, dans 800 villes en France et donc dans d'autres pays. François, qu'est-ce que c'est cette agriculture urbaine open source de troisième génération ?
Merci de votre venue nombreuse à cette conférence. Je voudrais savoir qui dans la salle a rapporté des légumes. Ah, ben merci. Alors, on les a mis à l'honneur. Ah, oui, bravo. Donc, le végétal est à l'honneur avec nous ce soir, puisque nous allons parler d'agriculture urbaine. Donc, c'est quoi l'agriculture urbaine de troisième génération ? Eh bien, ça veut dire troisième génération, c'est une troisième vague. Donc, il y a déjà eu deux premières vagues. La première vague, vous l'avez tous connue, c'est l'agriculture urbaine vivrière, donc qui a démarré dans les années 1890 jusqu'à à peu près 1945. Il y avait 250 000 jardins ouvriers en France. Alors, on en a toujours, mais il y en a beaucoup moins maintenant. C'est plus des jardins de loisirs. Et puis, il y a une deuxième vague qui a été, à partir des années 70, des jardins de transition, des jardins communautaires. Et donc, dans cette deuxième vague, eh bien, ce sont des personnes qui, dans un quartier ou au pied d'un immeuble, décident de jardiner ensemble et de partager la récolte. Mais il y a une barrière autour et c'est entre les différentes personnes. Et effectivement, en 2008, dans le nord de l'Angleterre, à Todmorden, avec la crise industrielle et la crise économique, eh bien, Marie Clear et Pam Warhurst, avec Estelle Brown, trois mères de famille, ont dit « ça suffit, ça fait 100 ans qu'on perd la moitié de la population, eh bien, aujourd'hui, on sait cuisiner, on sait jardiner, on va partager ». Et elles ont inventé ce concept de la nourriture à partager. Et donc, vous avez au pied des bacs. En anglais, c'est « food to share ». On va voir tout à l'heure des images. Ça veut dire « nourriture à partager ». Et c'est une révolution, puisqu'on cultive, mais c'est pour tout le monde. Donc, « servez-vous, c'est gratuit », c'est marqué « librement ».« Servez-vous librement », c'est gratuit. Donc voilà, c'est ça, l'agriculture urbaine de troisième génération. Et étonnamment... Eh bien, ça fonctionne très, très bien. Et on découvre aujourd'hui quelque chose de nouveau. Ça va être l'objet de notre discussion de ce soir. Que le partage crée l'abondance. Et donc, c'est quelque chose également un voyage intérieur. Puisque quand on partage de la nourriture, quand on cultive pour l'autre et qu'on se détache du résultat, eh bien... progressivement, on va quitter la peur du manque, puisqu'on va être dans le don inconditionnel. Et on va découvrir quelque chose de complètement nouveau. C'est-à-dire que quand vous allez faire l'expérience à grande échelle, on commence tout petit, puis on grandit, et à plus grande échelle, qu'en donnant pour l'autre, ben ça nous revient à nous. Et je peux en témoigner, je vous montrerai des photos tout à l'heure, dans mon petit village de Colroy-la-Roche en Alsace où j'ai commencé le premier bac en France. On n'en avait jamais parlé. Et dans un village de milieu rural, quand vous mettez nourriture à partager, les voisins ils se disent « il a un petit problème, lui il vient de Strasbourg, il n'est pas d'ici ». Quoi. Et on me regardait d'un drôle d'air. Et puis il y a des gens qui sont dans le cœur, des gens qui sont encore connectés, qui ont connu la guerre, qui ont eu des parents, qui avaient un jardin ou qui eux-mêmes ont un jardin. Mais c'est pas mal ce que tu fais là. Ah tiens, si tu veux, j'ai des pieds de tomates, je vais t'en donner. Puis l'autre voisin, j'ai des fraisiers, tu veux pas en avoir, etc. Eh bien, je me suis rendu compte au bout d'une année que quand je donne un plan, eh bien, on m'en donne 10 fois plus. Et maintenant, c'est 100 fois plus. Et il n'y a plus de limite. Donc, on va parler de ça ce soir parce que c'est ça, c'est cette magie qui fait qu'on peut atteindre l'autonomie alimentaire. On verra la puissance de cette reconnexion à la terre. C'est la terre qui est généreuse. C'est grâce à la terre qu'on peut le faire. Quand on plante une graine dans le sol, il y a beaucoup de jardiniers dans la salle, je le vois, et ça parle, eh bien la terre en rend 100 fois plus. Donc si on plante 1000 graines, on en a 100 000. On aura 100 000 légumes. Et si on est tous les habitants de l'Alès à le faire en même temps, qu'est-ce qui se passe à votre avis ? En un an, vous avez transformé la ville en potager géant et gratuit. Alors, eh bien ça, aujourd'hui, on disait tout à l'heure qu'il y avait des acres comestibles qui avaient démarré dans 800 villes de France. C'est 1200 villes dans 30 pays du monde et ça grandit de jour en jour. Et il y a des villes qui ont décidé de s'engager sur cette voie.
Mmh. Voilà. Il y en a d'ailleurs en France, là, il y a Albi et Rennes qui se sont engagés. Tu peux nous en parler
Oui, tout à fait.
C'est des gros engagements à l'échelle de grosses villes.
Oui. Alors, je vais vous montrer quelques images en même temps qu'on va illustrer ça. Ce phénomène est tout récent, puisque Incredible Edible en Todmorden, c'est en 2008. On a démarré en France au mois d'avril, le 28 avril 2012. Et puis, au début, il y avait quand même du scepticisme. Ceux qui ont cru les premiers, c'est les colibris, en fait, hein, avec Pierre Rabhi qui nous a appelés à faire notre part, tous ensemble. Et maintenant, ce sont des conseils municipaux entiers qui disent « nous, on veut le faire ». Parce qu'on sait qu'on n'a plus rien à attendre d'en haut. On n'a plus rien à attendre du monde, de l'Europe, du politique, la région, le département, etc. On a des taxes, c'est des taxes, et, mais on n'a pas, de réponse à nos problèmes. Donc les réponses à nos problèmes, c'est nous. Et donc y a un changement de regard, il y a un retournement. On va en parler avec Sabine sur la permathérapie, ce travail intérieur. Eh bien vous voyez ici, c'est une image qui est saisissante. C'est une ville en Allemagne qui s'appelle Andernach, que je suis depuis 4 ans. Et c'est une ancienne cité médiévale. Et elle s'est tournée vers la permaculture. Et aujourd'hui, elle a franchi le peur du manque, l'open source. Et elle transforme sa ville en potager géant et gratuit. Et les touristes viennent voir. Parce qu'ils en font quelque chose de très, très beau. Donc on a un tourisme de l'agriculture urbaine, de permaculture. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me, yeah, yeah. Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. It's a new day, it's a new life for me.
Ce mois-ci, dans les Jeudis des Colibris, on s'intéressait à l'autonomie alimentaire en ville avec François Rouillet, l'initiateur des incroyables comestibles, et Sabine Becker, l'auteur de La Noble Tâche. Tous les deux, ils ont inventé un nouveau terme à la frontière de la permaculture et de la thérapie. Il s'agit de la permathérapie.
Céline Elodie vient de parler d'Albi et de Rennes. Donc voilà les images d'Albi. Vous avez en haut à droite Jean-Michel Boite, qui est l'adjoint au maire. Et quand je l'ai rencontré, je lui ai présenté exactement ce qu'on va avoir ce soir ensemble. Et en trois quarts d'heure, il a dit « Banco, je le fais ». Il a compris. Et c'était en 2013. Et il a dit « Si on est réélu l'année prochaine, 2014, eh bien je me fais appeler adjoint au maire à l'agriculture urbaine ». C'est ce qu'il a fait. Et il s'est donné jusqu'à 2020 pour atteindre l'autonomie alimentaire pour les 50 000 habitants. Et donc, vous voyez les rues qui commencent à se transformer en jardin potager. Là, une petite planche qui vous donne un aperçu d'un changement total de la ville. C'est l'université.
Alors, je vais décrire pour nos auditeurs, faut pas oublier que ça va donner lieu à une émission de radio. Donc sur une photo, on voit le avant, donc un lotissement avec une étendue de terre, hein, ni plus ni moins. J'imagine qu'avant, c'était soit du béton, soit, je ne sais pas, du gazon.
C'est le campus, c'était pour faire du gazon.
On a
fini de restaurer les bâtiments et donc on a de la terre qui a été hercée pour semer le gazon. Et comme on a démarré les incroyables comestibles avec l'agriculture urbaine, le directeur du centre universitaire Jean-François Champollion a dit « Mais moi, je marche avec vous et allez-y, cultivez. » Et regardez, deux ans après, c'est un jardin-école de permaculture pour nourrir les étudiants et les habitants du quartier qui viennent se former à la permaculture sur le campus de la fac. C'est beau, ça.
Oui, c'est très, très beau. Ouais. On voit tout un tas de plantes avec des buttes, des petites allées. C'est très
vert.
Beau.
Hein. Ouais. Et là, je vous passe une autre image que les auditeurs ils peuvent rechercher en allant sur le site internet de la mairie de Rennes. Donc, c'est le 27 juin 2016. Le conseil municipal a voté un vœu à l'unanimité, droite-gauche, avec les écologistes. Ils se sont tous mis d'accord, les Bretons, pour s'engager sur l'autonomie alimentaire et avec les incroyables comestibles. Et là, il y a le vœu qui est écrit et vous allez sur le site et il y a une capture d'écran. Là, l'image qu'on peut voir, c'est une capture d'écran parce que c'est filmé. Donc il y a la lecture du vœu et vous allez pouvoir prendre connaissance d'une ville de 220 000 habitants qui s'engage sur la voie de l'autonomie alimentaire. C'est énorme, ça. C'est énorme. Donc, vous voyez un peu le changement. Donc, regardez ce qui se passe dans les rues de Rennes. J'y suis allé voir. Hein. Donc, Albi, j'y suis allé 4 fois. À Rennes, j'y suis également allé. Je peux témoigner de ce que j'ai vu de potager urbain et de la volonté de la municipalité à briser le bitume. Pour quand les habitants demandent, dire voilà, moi je voudrais faire un potager là sur le bord du trottoir. Allez, ils appellent la mairie vient, on va ouvrir le trottoir et puis on met de la terre et on cultive. Et vous voyez ici là les parcs, on a une très très belle photo où on voit un magnifique des résidences d'habitation et puis il y a du gazon, il fait beau et on a la vue avant après. Les gens se donnent rendez-vous pour un apéritif. Et on discute de permaculture. Et après, avec les enfants, on va retourner le gazon et on va planter des fruitières et on va faire un des jardins potagers. Voilà ce qui se passe à Rennes. Et plus vaste encore, c'est que Rennes, pour nourrir 200 000 habitants, c'est pas les incroyables comestibles qui vont permettre de nourrir la population avec la nourriture à partager. Les incroyables comestibles avec la nourriture à partager, c'est de la pédagogie. C'est de la pédagogie pour se reconnecter à la terre, pour décider d'avoir une nourriture de qualité locale et manger local en circuit court. Donc les circuits courts, c'est de travailler avec ces maraîchers. Et donc la ville de Rennes a lancé un programme qui s'appelle Prévalail et c'est un projet multi-acteur de 450 hectares. 450 hectares multi-acteurs avec l'INRA, avec Agro Campus Ouest, avec l'université, avec les grands partenaires. On a ici le plan, vous voyez, c'est vert et c'est toute cette zone. Et on invite les habitants à rencontrer les producteurs et ensemble redécouvrir le produit local et le produit bio et local. Donc voilà, cette démarche est enclenchée et d'autres villes, je peux témoigner qu'il y a une douzaine de villes maintenant qui sont en train de se préparer pour rejoindre le mouvement. Voilà, Choisy-le-Roi, c'est tout à côté de Paris. Choisy-le-Roi, c'est 50 000 habitants. Eh bien, cette ville, elle a décidé de faire de l'éducation populaire sa priorité. Et donc, elle investit en faisant venir des grands pédagogues, des experts dans tous les domaines pour mettre la connaissance à disposition de la population et de venir dans l'agriculture urbaine. Voilà quelques images. Je passe rapidement. Metz, c'est sur le campus de fac. On voit plein de campus de fac maintenant où les étudiants transforment les gazons en jardin nourricier de permaculture. C'est des belles images, hein, ce qu'on est en train de voir là, Céline.
Ah ouais, ils s'y mettent.
Ils s'y mettent. Il fallait la faire, celle-là. Voilà.
Merci, ouais, c'est vrai que ça fait rêver et qu'il est temps de s'y mettre.
S'y mettre, Saint-Lô, Arles, Brest. Ici, c'est au pied des lotissements. Avant, on avait du gazon. Et puis maintenant, ce qui est extraordinaire à Brest, c'est que les services des espaces verts travaillent main dans la main avec les habitants. Ils arrivent avec les tracteurs, ils font les trous pour mettre les arbres, ils retournent le gazon et on a un garde-manger bio à ciel ouvert. Servez-vous, c'est gratuit et c'est entretenu, c'est respecté, ça fonctionne.
On a vu une image d'un trottoir avec écrit zone fruitière. C'est vrai que moi, c'est une question que je me pose depuis longtemps. Pourquoi ne pas remplacer les arbres qui bordent nos rues par des fruitiers où on puisse aller se servir dans une ville de rêve? On imaginerait assez aisément ça. Donc,
voilà.
Merci pour toutes ces belles images.
Et Alès, il y a quand même eu deux bacs, Alès. N'est-ce pas, Marie-Annick ?
Tiens, on reconnaît quelqu'un sur les photos. Alors, on comprend dans vos deux itinéraires personnels qu'il y a eu une vie d'avant et une vie d'aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de ce qui s'est passé pour vous, de ce qu'a été le moteur du changement, de votre révolution intérieure, pour vous mettre à tout ça ? Peut-être la parole à Sabine.
Bonsoir à tous. Donc moi, j'étais donc fonctionnaire pendant 10 ans au niveau de l'État, puis ensuite en collectivité territoriale, c'est-à-dire commune et département. Et donc je travaillais dans l'aménagement du territoire, l'urbanisme et la politique de la ville. Et donc j'avais un travail relativement complexe puisqu'il s'agissait de faire des diagnostics et des propositions sur des territoires. Ça peut pas aller d'une parcelle à une commune, à une région, à un département, à des bassins de vie. Donc les échelles de territoire étaient très variées. Il fallait aussi concevoir dans le domaine économique, le domaine de l'habitat, de l'agriculture, de l'environnement, des zones inondables, des zones à risque, etc. Il fallait aussi faire avec la société, les gens, les équipements publics, les financements et les hommes politiques. Et je constatais tout au long de mon métier, que ma pratique professionnelle, comme j'imagine pas mal d'entre vous, ce n'est que des rapports de force entre les uns et les autres. On n'arrivait jamais à trouver un équilibre. Et c'était la majorité et l'opposition, c'était tel comité de quartier, c'était telle pétition. Celui qui était dans une zone inondable, eh ben, lui voulait quand même que son terrain soit constructible, l'agriculteur, etc. etc. Donc, c'est ma vie à gérer des conflits et c'était épuisant. Et j'avais acquis un savoir-faire pour quand même arriver à travailler et à produire. Mais à produire du règlement, à produire des projets et tout. Et un jour, je me suis réveillée, j'ai dit, mais c'est faux tout ça, c'est nul, ça vaut rien. Et c'est là que j'ai fait mon basculement, qui a été vraiment très, très important pour moi. Et je me suis complètement orientée. La vie m'a permis de quitter mon travail. Et comme ça me taraudait dans la tête le travail sur soi et l'accompagnement des personnes, finalement, je suis devenue thérapeute énergéticienne. Voilà. Et depuis, je comprends pourquoi il y a des conflits. Je comprends pourquoi. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est d'expliquer et d'informer les personnes, puisque moi je suis passée par là, je me posais des tas de questions, et donc d'informer les personnes qui sont un peu perdues, qui ne savent pas quoi faire avec leur petit vélo qui tourne tout le temps dans la tête, avec leurs émotions, et dire « mais j'y arrive pas, et ça j'y arriverai pas, oui mais, il y aura plein de barrières, oui mais mes parents ils m'ont dit qu'il fallait faire comme ça, et puis mon grand-père qui était agriculteur il faisait comme ça, et puis ainsi de suite, et on reproduit toujours pareil, et le changement, il est jamais maintenant, hein, ça c'est pas vrai, sauf si on le crée en soi. »
No, שוב אליי, נפרסו ונמסו מול מגע של ידייך באוזנייך לוחש שואל מי זה קורא לך הלילה הקשיבי נשאר בכל עלייך אל חלומך מי שם נפשו שתהיה מאושרת מי ישים יד ויבנת ביתך מי ייתן חייו ישימה מתחתייך מי כאפר לרגלייך יחיה מי אוהבך עוד מכל אוהבייך מי מכל רוח רעה יצילך מי מעמקים
לא 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 לא
שוב אליי, נפרסו ונמסו מול מגע של ידייך באוזנייך לוחש שואל מי זה קורא לך הלילה הקשיבי נשאר בקול עלייך אל חלומך מי שם נפשו שתהיה מאושרת מי ישים יד ויבנת ביתך מי ייתן חייו ישימה מתחתייך כאפר לרגלייך יחיה מי אוהבך עוד מכל אוהבייך מי מכל רוח רעה יצילך מי מעמקים
אני אמוני 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 Que más recuente fue venir aunque vale Que bonito Aunque quiere ser así Y echarle a lo Que bonito De volver por ser el santo Más que manchí Que bonito Aunque quiere ser así Y echarle a lo Que bonito
כל עלייך אל חלומך מי שם נפשו שתהיה מאושרת מי ישים יד ויבנת ביתך מי ייתן חייו ישימה מתחתייך מי כאפר לרגלייך יחיה מי אוהבך עוד מכל אוהבייך מי מכל רוח רעה יצילך מי זה קורה לך הלילה נשאר בכל עלייך אל חלומך מי שם נפשו שתהיה מאושרת מי ישים יד ויבנת ביתך מי ייתן חייו ישימה מתחתייך מי כאפר לרגלייך יחיה מי אוהבך עוד מכל אוהבייך מי מכל רוח רעה יצילך מי זה קורה הלילה תקשיבי נשאר בכל עלייך על חלומך מי שם נפשו שתהיה מאושרת מי ישים יד ויבנת ביתך מי ייתן חייו ישימה מתחתייך מי כאפר לרגלייך יחיה מי אוהבך עוד מכל אוהבייך מי מכל רוח רעה יצילך
Vous écoutez le chant des colibris sur Radio 16 sur le 99.2. Aujourd'hui, nous accueillons François Rouillet, l'initiateur des incroyables comestibles en France, et Sabine Becker, l'auteur de La Noble Tâche, comprenez du travail sur soi.
Sabine, j'aimerais encore vous entendre sur ce sujet, puisque quand on parle de viser l'autonomie alimentaire, il est clair que sur un territoire, atteindre l'autonomie alimentaire, on ne pourra pas produire localement tout ce que l'industrie de la consommation et de l'agroalimentaire nous propose dans les supermarchés. Il s'agit alors de pouvoir dire non à l'inutile, de revoir nos habitudes, peut-être de retrouver ce que Pierre Rabhi appelle la sobriété heureuse. Et comment on fait pour développer cette autonomie qui est d'abord intérieure, justement, ça passe par le travail personnel.
Voilà, c'est tout à fait ça. En fait, l'autonomie alimentaire passe par l'autonomie intérieure. Et ça veut dire qu'il faut se décrocher, se débrancher, se désattacher de la vie actuelle, enfin de la vie qu'on veut bien vivre. Et il y a beaucoup de personnes qui vivent avec la publicité, avec la télévision, avec les nouvelles, avec les magazines et avec les marques. Et donc, ce qui se passe dans notre tête, c'est que le fonctionnement du mental ne se nourrit que des informations du passé. Il est assez influençable. Et donc on répète, on répète, on répète, on répète. Et plus on répète, plus on répète. Et à un moment donné, on se prend des murs, on se prend des gamelles, on a des maladies, on a des tas de choses pas marrantes qui arrivent dans notre vie. Et à ce moment-là, on s'interroge, on se dit, mais pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ça. Donc c'est l'occasion de d'une auto-interpellation en disant, mais est-ce que c'est juste tout ce que je fais? Et donc l'autonomie alimentaire revient à casser ce rythme et à cette prise de conscience personnelle pour voir et s'observer quand je suis commandée par quelque chose qui est extérieur à moi, quand je suis désalignée, et quand je vais revenir à moi et que je suis centrée, je dis non, ça, j'ai pas besoin. Là, je suis en train de me laisser influencer, je reproduis. Et donc, de ce fait, ça demande à travailler sur ses émotions. Parce que figurez-vous, quand on mange, 80% du temps, on mange de manière, enfin, je veux dire ça, émotionnelle. C'est souvent des compensations face à l'ennui, face à la colère, face à la frustration, face à la jalousie. Notre alimentation, elle est plus par réaction émotionnelle que vraiment en conscience. Donc ça veut dire que ça nous demande à travailler sur nos émotions et donc sur nos... Voilà, bon, ça c'est tout un travail que je ne vais pas développer ici. Et donc si j'arrive à consommer vraiment une nourriture vivante, une nourriture qui me fait du bien, qui m'amène la santé, au lieu de toujours courir après des compensations qui me font du mal, finalement, je vais voir que je vais avoir nettement moins de produits à acheter. Ce qui veut dire que le territoire va pouvoir être autosuffisant pour produire ce dont vraiment j'ai besoin, qui me fait du bien. Et ce qui me fait du bien, c'est une nourriture vivante, donc bio, qui n'a pas été trafiquée, si je puis dire. Et donc, de ce fait, les personnes qui veulent bien cultiver vont être à l'écoute de cette demande. Et donc, ça va être à l'écoute de cette demande. Et donc, du coup, ça va les stimuler. Ça va les stimuler pour produire des produits de qualité, puisque comme là, bon, on voit ces légumes, moi j'adore ça, enfin, et donc ça nourrit. De ce fait, les territoires vont pouvoir être autosuffisants et se redessiner. Et moi je dis, on dessine les territoires en fonction de notre niveau de conscience. Et c'est notre niveau de conscience qui dessine les territoires. Il n'y a qu'à voir, on a accepté tout ce qui s'est déroulé, ben, maintenant on peut changer.
Alors justement, vous avez tous les deux travaillé en lien avec les institutions et avec les politiques. Et puis vous avez tourné le dos au système actuel pour proposer un changement de regard, pour développer une autre réalité, un modèle de société basé sur les coopérations, c'est ça? Peut-être François, si vous pouvez développer ce point-là. Qu'est-ce que ça change au niveau des partenariats avec les politiques maintenant?
Ah oui, c'est vraiment un changement de fond, puisque avant je dépendais du politique. C'était le politique qui me nourrissait, c'était mon client. J'étais consultant dans les politiques publiques, donc je rédigeais les stratégies d'aménagement, des SCOT, des PLU, etc. Je rédigeais les discours des politiques. Et donc je faisais partie de ce qu'on appelle les experts. Et jusqu'à ce que je me rende compte que, comme Sabine disait tout à l'heure, mais ça ne fonctionne pas, quoi. J'ai enseigné dans les grandes écoles, et à Paris, en formation continue, etc. Et puis un jour, chantait qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond, et je suis tombé sur un petit film que certains d'entre vous connaissent sûrement, qui s'appelle « Vie et mort du sol » de Claude et Lydia Bourguignon. Et alors là, quand j'ai vu ça, j'ai dit « mince alors !» Mais le ciel m'est tombé sur la tête, là. C'est-à-dire que je travaillais pour la SNCF à faire des TGV, et donc c'est des grands projets avec des gros moyens, on parle en milliards, hein, les TGV. Et puis on traverse en disant, ouais, vous allez voir, 17% du budget d'aménagement, ça va être pour reverdir le territoire, etc. Et très bien, on faisait du beau travail. Mais je ne m'en rendais pas compte qu'en traversant la France, les sols étaient morts. J'avais des idées, mais pas à ce point quand même. Il a fallu que les Bourguignons, ils creusent, ils nous montrent dedans que autrefois, il y a 50 ans, il y avait 3 tonnes de vers de terre par hectare. Et aujourd'hui, combien de tonnes de vers de terre par hectare ? Plus rien du tout. 150 kilos. 150 kilos, quand c'est pas zéro. Donc il n'y a plus de perdrix, il n'y a plus de petits animaux, de faisans, etc. La biodiversité a foutu le camp. Et puis quand il pleut, tout ça, ça part à la rivière. Tout l'humus. Et puis on retrouve les nitrates en Bretagne avec les algues vertes. Et maintenant, on va faire une filière de recyclage. C'est pas un problème. Donc il y a toujours un business derrière pour recycler. Je dis, mais ça, c'est pas ça que j'ai voulu. C'est pas possible. Donc je ne peux plus continuer ce travail. Donc j'ai vécu une crise de conscience. Et à partir de là, je faisais de ce qu'on appelle de la veille stratégique, c'est-à-dire que j'étais missionné par les collectivités pour travailler sur la sécurité alimentaire, parce qu'on sait qu'il n'y a que 4 jours de stock dans les magasins pour nourrir les populations. Donc si la chaîne d'approvisionnement s'arrête au niveau mondial, pour une raison économique, sociale ou écologique, ou les trois en même temps, ben on a au bout de 3 jours et plus à manger. Mais qu'est-ce qu'on fait ? J'ai dit, mais ça va pas. Et donc quand j'ai découvert, en faisant cette veille stratégique, Incredible Edible Tom Morden, en disant, mais transformons nos villes en potagers géants et gratuits, partageons, cultivons et partageons, prenons soin de la terre. J'ai dit, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Non, il n'y avait pas de sous pour faire ça. Donc j'ai dû accepter, et j'ai pris la décision de vivre la sobriété heureuse, puisque je me suis mis au service bénévolement pendant 4 ans pour implanter avec une équipe, une petite équipe et des moyens très très limités, implanter le mouvement Incredible Edible, les incroyables comestibles en France. Et voilà, ça commence par chez soi, devant chez soi. Là, on est bien 60 personnes ce soir. Je ne sais pas si vous imaginez la puissance de qui nous sommes là, ce soir. C'est-à-dire que si demain, les 60, on décide chacun de faire un bac comme on a ici devant chez soi, et que vous le prenez en photo, que vous le mettez sur la page Facebook, et qu'on fasse une carte, qu'on relie les bacs entre eux, ben vous allez voir, Alès, on va en parler. Hein. Et donc, c'est ça, c'est le pouvoir des petites actions. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, le vieux système, c'était un système pyramidal descendant, c'est-à-dire qui fonctionne à l'envers, qui est involutif, qui est basé sur une croyance erronée. C'est quoi cette croyance erronée ? Eh bien, c'est la croyance de la séparation. On nous fait croire, depuis des générations, qu'on est séparés les uns les autres. Alors, résultat, ça a donné une conscience collective de la compétition, puisqu'on est séparés. Ben, c'est le meilleur, donc, c'est la compétition, c'est le meilleur qui gagne, c'est le plus fort qui gagne. Mais la compétition, qu'est-ce que ça fait ? Ben, ça génère l'exclusion. Donc, vous en avez un, le plus malin, qui gagne, et puis vous en avez 100 qui perdent. Et puis après, vous en avez un qui gagne et 10 000 qui perdent, 10 millions qui perdent. Et maintenant, vous avez des entreprises qui sont plus puissantes que des États. Et là, cette pyramide, eh bien, elle s'effondre par la base. La biodiversité s'écroule, les peuples, tout ça, ça s'écroule. Et tout ça, c'est en train de s'effondrer. Et ça, je le vois, je le vis. Le chômage, l'insécurité, la peur partout. C'est pas ce monde-là que je veux pour mes enfants. Et par le seul changement de regard, eh bien, on change de réalité. Parce que nous sommes créateurs de notre réalité. Et là, j'en ai fait l'expérience en mettant les mains dans la terre et en retournant le système, on passe d'un système d'une offre mondialisée à une demande localisée. Et là, on passe d'un système involutif à un système évolutif. On passe de la pénurie à l'abondance par le partage. Et donc, si on se met à partager, on va vivre quelque chose d'extraordinaire où tout va être possible. Parce qu'on sera dans des coopérations éthiques et solidaires. Et les incroyables comestibles, c'est cette voie-là qu'elle ouvre. Et c'est formidable parce que l'agriculture urbaine de troisième génération, en open source, c'est-à-dire en partage, ça génère l'abondance parce qu'on est tous animés de cette même volonté du bien commun, de prendre soin de soi, de l'autre et de la terre. Et c'est ce qui nous a amené, Sabine et moi, à créer un groupe de travail, un programme participatif qui s'appelle Permathérapie, qui apporte une dimension supplémentaire à la permaculture. Donc on travaille avec la permaculture, mais elle a en plus une démarche de travail sur soi. Et on va en parler encore un peu ce soir.
Et donc au niveau des partenariats politiques, comment ça s'est retissé tout ça avec ce changement de regard
Ouais, ça change complètement la donne parce qu'aujourd'hui, je vis avec... je suis au RSA, hein, donc j'ai vécu la dématérialisation des biens. Puisque ben, la banque m'a enlevé ma maison, la voiture, la télé, il n'y a plus rien. Voilà. Mais je me sens complètement libre. Maintenant, je suis complètement libre. Et donc, je n'ai plus besoin de passer un appel d'offres des marchés publics pour négocier d'égal à égal avec la collectivité. Et ça prend un temps infini, et qu'il y a la concurrence, et qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, etc. Il n'y a plus de barrières. Et je ne manque de rien. Vous voyez bien, ce soir, je ne fais pas pitié. Et je vis la sobriété heureuse, comme les colibris. Je fais ma part. Et là, je ne manque absolument de rien parce que je vis de synchronicité en synchronicité, c'est-à-dire que je vis dans l'instant présent, je vis dans le don. C'est-à-dire que tout ce qui rentre, eh bien, je le remets en circulation. Et je vis dans le don. Et je reçois. Donc, vivre dans le don, c'est aussi apprendre à recevoir. Et c'est ça qui change complètement dans ma vie maintenant. C'est que, bien avec Sabine, on fait... Sabine, t'en es le témoin. On tourne en France et dans le monde. On revient du Québec. Eh bien, on nous offre le billet d'avion pour aller faire une tournée de conférence au Québec. Et puis, la fin du mois, on est à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et puis, ensuite, on y va au Maroc. Et on tourne. Et on nous demande. Et on s'est pris en charge. Et on ne demande rien. On ne demande rien dans nos conférences. On fait des formations en participation libre et consciente. Et on nous dit ça marchera pas. Eh bien si, ça marche. Et voilà, on nous a apporté des carottes ce soir. Merci beaucoup.
Et nous aussi, les colibris, on fonctionne comme ça, en participation libre et consciente. C'est vrai que c'est une belle nouvelle manière de fonctionner.
Makae e ma a uo makae e ma a uo makae e ma a uo makae e ma a o perché là où l'escalier dans ma tête j'ai choisi de grimper. Par habitude, la solitude me conduit vers ma mémoire. Je m'enfuis, immergé dans l'ivresse, le murmure d'être ailleurs. Je m'abîme dans l'écume d'une langue sauvage. Je capture une lueur, je fabrique une essence. Je concocte une bombe de solitude, mon âme.
Écoute le sage qui avec chaque soleil renouvelle sa vision. C'est par son œil que j'ai cherché à percer le béton pour traverser la solitude funambule qui dans la grande ville hurle. Trop longtemps au hasard du vent j'ai jeté l'espoir, peut-être en pensant qu'il me tracerait une ligne tout droit vers le point d'horizon. Mais non, il n'y a que silence qui répond au silence. Alors voici, c'est pour toi qui est caché dans l'ombre. C'est pour toi que je chante, c'est pour toi que je chante. C'est pour toi que je chante, c'est pour toi que je chante.
de m'éclipser, égaré dans mes images suspendues. Si je m'y attarde, je vais me brûler.
Vous écoutez le chant des colibris sur Radio 16 sur le 99.2, une émission enregistrée en public le troisième jeudi du mois à la boutique solidaire au 5 Faubourg de Rochebelle à Alès.
Les incroyables comestibles, c'est basé donc sur ce don, cette envie de donner, mais c'est basé sur quoi encore? C'est quoi la recette miracle pour que ça se propage à cette vitesse?
On va regarder, vous voyez ici comment ça se propage à toute vitesse. Ça marche tellement fort maintenant qu'on assiste à une sorte de séparation des mondes. C'est-à-dire qu'il y a...
Séparation des mondes.
Séparation des mondes. C'est-à-dire qu'il y a encore des collectivités qui sont dans l'illusion du pouvoir et de la sécurité et de tout contrôler, dans le contrôle. Et donc, on nous dit, pour votre sécurité, on va mettre plus de caméras de surveillance. Pour votre sécurité, on va faire ci. Pour votre sécurité, on va faire ça. Et en fait, pour votre sécurité, vous n'avez plus du tout de liberté. Et donc, c'est ça le monde qu'on nous propose. Eh bien non. Il y a des villes qui s'ouvrent maintenant. Et vous voyez ici, j'ai mis un transparent. La ville d'Ivry-sur-Seine, eh bien, elle vient, si vous allez sur son site internet, elle délivre une autorisation d'occupation du domaine public. Mais c'est révolutionnaire, ça. Vous voyez un bout de terrain, vous prenez une photo, vous allez à la mairie, vous dites, voilà, ce terrain-là, il sert à rien, je voudrais, avec mes voisins, on voudrait faire un potager incroyable comestible, est-ce que c'est possible? Ah ben, il n'y a pas d'opposabilité, signez le papier, vous en êtes responsable, on vérifiera que tout est en bonne et due forme, etc. Si vous l'entretenez, vous continuez, si vous l'arrêtez, ben, on va le passer à un autre. Et donc ça, c'est l'autorisation du domaine public d'occupation. Et maintenant, même la ville de Paris commence à s'y mettre. Donc vous voyez, il y a un changement phénoménal. Donc on voit ce changement de fond. Et donc, c'est quoi la recette? Eh bien, c'est un objectif d'atteindre l'autonomie alimentaire en 10 ans. Et Todd Morden, avec Marie Clear, je vous l'ai dit tout à l'heure, cette mère de famille, elle a planté un pied de rhubarbe à l'arrêt de bus au centre de Todd Morden. Et c'était marqué « Food too cher ». Je suis allé la voir et je lui ai demandé de retrouver le pied de rhubarbe. Elle a cherché la nette, elle avait poussé en 3 ans. Ça fait 2,50 m de hauteur. On voit là sur la photo, dans le gros massif d'Annette, Marie Clear qui a retrouvé le pied de rhubarbe. Hip hip hip, hurra. C'est le pied historique. Il est toujours là. Et donc avec son ami Pam Warhurst, eh bien, il y a 63 personnes qui ont rejoint le groupe au mois de mars 2008. À la fin de l'année, ils étaient 360. Ils ont atteint 83% d'autonomie alimentaire au bout de 3 ans. Ça change le décor quand même. Hein.
J'imagine.
Voilà. Et ils ont relié les bacs de plantation entre eux avec des thèmes et ils ont fait une green route. Et les touristes viennent voir du monde entier, été comme hiver, 7 jours sur 7. On a des traducteurs dans 13 langues différentes. Ils ont doublé les hôtels-restaurants en 3 ans. J'y suis allé pour tourner le film demain avec Cyril Dion. Pour ceux qui l'ont vu, c'est le premier chapitre. Donc j'ai accompagné l'équipe de Mélanie et Cyril pour tourner le film. Et là, j'ai vu, c'était la ville, elle était métamorphosée. Et pourtant, c'est une ancienne cité industrielle. Vous voyez, ici, on a une photo où on voit la carte de la Green Route. Et les touristes, ils font le tour. Et il y a toutes les boutiques qui fleurissent pour vendre les produits locaux en circuit court. Eh bien, les touristes, ils jouent le jeu, ils achètent. Et résultat, la délinquance, elle s'est effondrée à Todd Morden. Alors, les policiers, mais ils n'ont plus de boulot. Ah ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils font, les policiers? Regardez. Ils plantent devant le commissariat
de police. Ils plantent des tomates.
Ils plantent des tomates, du maïs, des courges et des petits pois. Et les touristes, ils adorent venir se faire prendre en photo avec les flics. Et eux, bah, ils sont ravis. Ils ont changé leur travail. Et quand les incroyables comestibles à Todd Morden se réunissent dans leur grande nef, là, l'ancien édifice du presbytère, Et bien, c'est marqué sur la police, c'est marqué community support. Ouais, ils font de la prévention maintenant. Et donc, ça change complètement. Ici, il y a, vous voyez, 83% de l'alimentation vient du local par les circuits courts sur un rayon de 50 miles, c'est-à-dire à 80 km à la ronde. Donc, les premiers gagnants de cette nouvelle économie, parce que nous, on décide de manger local immédiatement, les premiers gagnants, c'est nos maraîchers. C'est nos producteurs. Donc là, eh bien, vous avez les commerçants qui étaient à gérer la crise, la pénurie. Maintenant, ils managent l'abondance. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on passait d'une offre mondialisée involutive à une demande localisée évolutive. L'argent, au lieu de partir dans les multinationales et dans les banques internationales, eh bien, il reste local. Et là, ça change tout. Parce que les commerçants, les commerçants, eh bien, il y a un pouvoir d'achat. Donc le commerce, il fleurit, ils ouvrent des commerces. Et surtout, les producteurs ne vendent pas à marge négative, puisqu'ils vendent en circuit court. Donc ce sont, vous voyez ici, dans la halle, c'est une photo que j'ai prise, hein, toutes ces photos, je les ai prises. Eh bien, ils ont un petit tableau noir, et c'est sérigraphié, il fait 60 sur 80 cm. C'est l'idée la plus géniale que j'ai jamais vue en économie. Ce petit tableau noir, ils écrivent Incredible Edible Tom Morden avec un logo marqué Local Food, vous voyez en haut à droite, Local Food, nourriture locale. Et ils écrivent à la craie sur ce tableau noir, comme à l'école, les produits qui viennent de moins de 50 miles, c'est-à-dire à 80 km à la ronde. Et ils se sont passés le mot, les habitants, et c'est ce qu'ils achètent en priorité quand ils font les courses. Eh bien, résultat, l'argent reste local. Et vous l'avez vu dans le film demain, Bristol fait la même chose. Eh bien, en plus, ils font une monnaie locale. Le personnel municipal de la ville de Bristol, en totalité, il est payé en monnaie locale. C'est-à-dire que l'argent ne vaut rien en dehors de la ville. Eh bien, toute la richesse, elle reste locale. Voilà ce que ça donne.
Merci François Rouillet. J'en profite pour dire qu'on va faire aussi une soirée sur les monnaies locales qui sera au mois de février 2017, ici, donc le troisième jeudi du mois de février. Si on veut s'y mettre à Alès, on commence par quoi, François?
Eh bien, il y a une méthode très simple, c'est de faire devant chez soi. Là, je vous ai montré la photo du premier bac en France, je vous en ai parlé tout à l'heure, qui a été construit à Colroy-la-Roche avec mon fils Léo, devant la maison. Nick Green de Tom Morden est venu 3 mois plus tard pour dire qu'il validait la démarche. Et à partir de là, eh bien, on se prend en photo devant la pancarte de la commune pour officialiser le mouvement citoyen. Et c'est la première étape, il y a une petite gouvernance très simple. Et ça, c'est 800 villes en France qui ont lancé. On voit les photos de pancartes, Saint-Nazaire, Châteauroux, Montpellier, Concarneau, Lyon, Angers, Rennes. On a vu tout à l'heure, il y avait Montpellier, etc. Vous voyez un peu, Rochefort, Strasbourg. Alors parfois, ils démarrent à 2 ou 3, mais parfois, ils sont à 60. Si nous, les 60, on le fait 60 devant la pancarte d'Alès, ça envoie un sacré message, hein. Ça envoie une résolution, une intention de citoyens souverains qui ont décidé de changer de regard, de quitter la croyance erronée de la séparation et de se reconnecter dans le partage avec la terre nourricière et de faire de notre ville un jardin de nourriture à partager et puis des circuits courts. Donc vous voyez, ce mouvement, il est mondial. On voit ici, on passe quelques images de l'Allemagne, la Norvège, le Mexique, le Brésil, même sur la Place Rouge à Moscou ou en Chine, en Belgique, il y a 63 villes. Lausanne, le Qatar, etc. On voit l'Afrique, l'Inde, le Maroc. Le Maroc, ils l'ont fait dans un village. Je vous invite à regarder chez vous, en rentrant chez vous, et Brachois. Vous notez Brachois, un petit village. On a testé la méthode qu'on est en train de présenter là ce soir. On l'a testé dans un village qui était le plus pauvre, un des plus pauvres du Maroc. C'est à 40 km de Rabat. Ils n'avaient ni eau ni électricité. Eh bien, au bout de 3 ans, ce village, avec cette méthode de la nourriture à partager et de la permaculture, le changement de regard, ils sont arrivés à l'autonomie alimentaire. Au bout de 3 ans. Ça marche tellement bien qu'on vient les visiter de tout le Maroc maintenant. C'est devenu un lieu d'écotourisme. Et ils sont dans le village au hall d'accueil de la COP22 qui se déroule à Marrakech en ce moment. Ils ont le hall d'honneur. Vous voyez, ça fait quelque chose. Hein. Et donc, sans argent, ils sont arrivés à l'autonomie alimentaire. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Vous avez les images ici avec notre ami Mohamed Chafchaouni qui est en blanc, qui est au centre d'un keyhole garden de permaculture. Ils ont fait 17 keyhole gardens de permaculture en 3 semaines. Et ils ont mis en place toutes les techniques de permaculture et ils ont produit une très très bonne nourriture. Et les restaurants de Rabat ont commencé à venir rechercher cette nourriture de qualité. Et puis les touristes sont arrivés et ils ont fait un écotourisme. Et maintenant, ils accueillent des jeunes en woofing. Et ça y est, c'est parti, ils gèrent l'abondance. C'est le retournement. Voilà la méthode. Et donc, Alès, qu'est-ce qui nous empêche, nous, de s'engager chacun, ici, tous les colibris, à se mettre ensemble? C'est l'union qui fait la force. Donc, si on se met à 60 sur la photo de pancarte en disant « Nous voulons l'autonomie alimentaire, nous voulons une nourriture qui respecte la santé, qui respecte la vie du sol, qui va aggrader le sol au lieu de le dégrader. Nous voulons une éducation pour nos enfants. » Et on le voit, on l'a démarré ici en Algérie, en Tunisie. Regardez ici, cette photo, c'est le Parlement du Québec. Devant l'Assemblée nationale du Parlement du Québec, ils ont enlevé les gazons et on a de la nourriture à partager pour envoyer un message à toute la population du Québec pour faire l'agriculture urbaine open source. Mm. C'est une priorité politique au Québec. On en vient, on a passé 10 jours, on était à Victoriaville. Et là, vous avez une photo de Victoriaville. On l'a constaté, cette ville nous a demandé de l'accompagner pour s'engager sur l'autonomie alimentaire. En 2020, elle a 50 000 habitants. Elle veut faire comme Todd Morden, comme Albi, comme Bristol, comme Leeds.
Alors, avant qu'on réagisse là-dessus, et de toute façon, il va y avoir un temps d'échange avec le public, moi, j'aimerais déjà vous remercier très fort, Sabine Becker et François Rouillet, d'être venus nous montrer tout ça et nous parler de cette belle initiative. Effectivement, vu qu'on est tous réunis ce soir, ça peut être une bonne idée, à côté de la feuille des colibris, de mettre une feuille pour ceux qui ont envie de mettre en place des initiatives de type créer des bacs devant chez vous, etc. Donc, et de rester reliés les uns avec les autres là-dessus. Donc, on va faire ça. Et puis, voilà, on prend un temps d'échange d'une demi-heure. Moi, je vais arrêter là l'enregistrement. Vous remercions très, très fort. J'annonce quand même avant la prochaine soirée des Jeudis des Colibris qui concernera la réduction des déchets. Donc, on reste dans la thématique d'être plus conscient de ce qu'on consomme. Et donc, le titre de la soirée, c'est « Plus belle ma poubelle ». Vous aurez donc l'occasion d'entendre 4 intervenants. D'abord, un panorama de comment sont gérés nos déchets au niveau local, chose qui est très difficile à obtenir comme information, parce que c'est très dur d'avoir de la transparence sur ces sujets-là. Donc, savoir où sont les déchetteries, où sont les incinérateurs, où sont les décharges, comment ça fonctionne, à quel moment ils respectent ou pas les normes, etc. Donc là, on va vous offrir un panorama de tout ça au niveau local. Et puis ensuite, on verra diverses pistes de solutions pour réduire nos déchets et voir comment ça peut être valorisé avec la mairie sur nos taxes des ordures ménagères. Voilà, prochaine soirée des Jeudis des Colibris, c'est le 17 novembre, ouais. Plus belle ma poubelle. Merci à tous et on continue donc avec un moment d'échange avec le public.
En voyant tous ces colibris, les animaux, tous leurs amis se sont rués comme un sali. Ça y est, l'histoire s'arrête ici, sans dire la fin de l'incendie. L'important c'est les colibris et leur courage et leur génie. Au paradis des colibris, il y aura des ogres et des gentils, des grands, des gros, des minces, des petits. Au paradis des colibris, au paradis.
Pour rejoindre les Jeudis des Colibris, c'est le 3e jeudi du mois, à la boutique solidaire au 5 Faubourg de Rochebelle à Alès. Et pour réécouter cette émission, c'est quand vous voulez sur le www.radio16.net.